Alors ben, bonjour à tous. Donc déjà je me présente Béatrice Parent, je suis coordinatrice du dispositif Inside.
Bonjour à tous, je suis Héloïse, je suis la juriste du dispositif Inside.
Alors déjà on voulait vous présenter un peu le dispositif Inside. Donc Inside est un dispositif de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc, si j'arrive à faire, hop, passer. Ça marche, je vois que ça marche, donc c'est bon. Alors, le dispositif Insight est un dispositif qui a été créé en 2022 suite à des financements de la GRASC. Sur cette période-là, entre 2022 et 2024, on a mis en place un diagnostic maralpin en 2023 afin de voir un peu l'étendue de la problématique sur l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes pour voir un peu l'ampleur que prenait le phénomène de l'exploitation sexuelle sur ce territoire-là. Et à la suite de ce diagnostic, on a pu poser un peu plus les bases et les missions de Inside, les missions principales autour de l'accompagnement, la prévention, sensibilisation et la formation. En 2024, fin 2024, on a obtenu un financement de la part de la DGCS sur 3 ans, donc qui nous permet toujours d'intervenir au niveau du département des Alpes-Maritimes, mais aussi de façon nationale. Donc depuis 2022, on intervient en majorité sur le département parce qu'on est rattaché au département, mais de façon nationale, d'où le fait qu'on puisse aussi intervenir dans le nord de la France et qu'on a pu rencontrer par exemple notre partenaire de Solfa. Donc, lors de la mise en place de nos missions, on est arrivé récemment sur ce dispositif avec Héloïse, donc en 2024, et on s'est permis de prendre le temps d'observer un peu le fonctionnement qu'il y avait autour du phénomène d'exploitation sexuelle des mineurs. Beaucoup, depuis le plan de lutte, beaucoup de personnes se sont mobilisées autour des situations et on a pu observer qu'il y avait plusieurs formes en fait d'accompagnement physique de ces jeunes-là. Avec le temps, on a pu observer avec Héloïse que finalement, il était peut-être aussi nécessaire de regarder par un autre spectre et de voir de quelle façon on pouvait intervenir là où les professionnels étaient limités, c'est-à-dire sur l'ère du numérique. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Donc, au niveau des trois missions, comme je pouvais vous le dire tout à l'heure. Donc, on a l'accompagnement avec l'accompagnement première ligne, les maraudes numériques et le perdu de vue. La prévention et la sensibilisation avec l'animation d'ateliers à destination des jeunes afin de les sensibiliser à la problématique de l'exploitation sexuelle des mineurs. Et de la formation conseil avec des capacity building et l'organisation de webinaires. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement numérique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a repéré que certaines actions étaient très vite limitées dans l'accompagnement physique des jeunes et pour les professionnels limitées dans leur champ d'action au niveau du numérique. Personne ne va vraiment sur le numérique. Avec certaines associations font de la maraude, mais de l'accompagnement numérique, il n'y en a pas beaucoup parce que en privilégiant l'accompagnement physique. Donc, on organise des maraudes numériques de base, donc d'identification, d'instauration d'un lien et d'un filet de sécurité. On va sur les sites de sexe tarifés, les réseaux sociaux, les plateformes de jeux, toutes plateformes où on peut rencontrer des jeunes et on met en place un filet de sécurité où on informe et on envoie des messages types. Donc, on ne travaille pas à visage couvert, donc on informe de qui on est. Et on réoriente si besoin. Donc, on essaye de créer un lien virtuel et des réorientations si c'est nécessaire lorsque les jeunes nous le demandent vers des partenaires associés de l'ASE, hospitaliers, forces de l'ordre, juridiques, etc. Donc, ça, c'est de principe, c'est les maraudes de base que l'on peut proposer. On a créé ce qu'on appelle aujourd'hui un service qui s'appelle perdu de vue. Donc, on a des mandats d'intervention. Par des professionnels, des partenaires, des foyers, des structures et même des familles. Donc, à leur demande, on va pouvoir organiser des maraudes plus spécifiques avec les informations qu'on a pu collecter lors d'évaluations avec les partenaires. Et on va aller à la recherche de ces jeunes-là sur les sites de sexe tarifés, sur les réseaux sociaux ou sur certaines plateformes. Donc, une fois qu'on a pu repérer les jeunes, par exemple sur les sites de sexe tarifé, on va faire un signalement, on va prévenir les représentants légaux ou les structures, les travailleurs sociaux, pour qu'ils puissent faire de même et le signaler. Et en parallèle, on organise des points réguliers avec les partenaires pour voir ce que l'on peut observer en termes de réseaux sociaux. Donc, les jeunes nous donnent un accès donc, sur leurs réseaux sociaux et à partir de là, bah, nous, je dis, on communique de façon très librement avec eux quand c'est nécessaire ou en tout cas nous permet d'avoir une visibilité, de savoir où ils sont, qu'est-ce qui se passe dans leur vie numérique. Donc, on travaille toutes ces actions-là aussi en collaboration avec AXÉ, donc le dispositif national de lutte contre la traite des êtres humains, et des Lucioles qui a un accueil de jour local, donc sur le département, pour travailler la passation, on va dire, le relais de la minorité à la majorité, parce qu'on sait que c'est une période charnière et difficile pour ces jeunes-là, et qu'à un moment donné, ils ont besoin de pouvoir avoir des personnes ressources au-delà de la majorité pour pouvoir maintenir un lien. Donc, on travaille ça avec ces deux partenaires-là, dans lesquels qui font partie de la même structure, même association, et les mêmes locaux que nous, c'est plus facile pour travailler cette partie-là. En ce qui concerne notre deuxième mission, qui est la prévention-sensibilisation, on anime des ateliers à destination des jeunes et jeunes majeurs. Aujourd'hui, on a un partenariat avec la mission locale afin de proposer des ateliers plus spécifiques avec des outils qu'on a pu créer en lien avec ce qu'ils peuvent vivre sur le monde du numérique, avec des termes qu'eux connaissent et utilisent au quotidien, et les sensibiliser à ce qui peut se passer. Aujourd'hui, sur ces interventions et sur ces animations, on a pu remarquer que un à deux jeunes par atelier a été ou est victime d'exploitation sexuelle. Donc, on a pu voir un phénomène en fait grandissant de cette problématique et donc la nécessité de pouvoir sensibiliser et prévenir les jeunes dans ce domaine-là. On essaye aussi également de mettre en place des groupes d'experts, donc quelque chose plus spécifique avec de l'action recherche, de la recherche action, pour essayer de comprendre un peu plus le phénomène d'exploitation sexuelle et de prostitution chez les mineurs. Donc essayer de comprendre un peu ce phénomène de bascule qui peut exister, à quel moment, malgré ce que l'on peut connaître de l'histoire de la jeune, de ce qui a pu l'emmener à basculer vers de la prostitution et de l'exploitation, quel est l'élément déclencheur qui fait qu'il y a cette bascule? Et donc, du coup, l'idée, c'est de s'appuyer sur des groupes d'experts, donc de pairs, des personnes majeures, qui viennent partager leur donc, de façon volontaire hein, leurs expériences, leur histoire de vie, afin de comprendre en fait qu'est-ce qui peut faire effet de bascule vers la prostitution, qu'est-ce qui dans leur parcours a été un élément clé dans ce passage vers de la prostitution, en tant que mineur ou en tant que majeur. Et également dans ces groupes d'experts, donc on essaye aussi de voir au niveau du numérique principalement. Le phénomène et le fonctionnement des clients. C'est-à-dire que lorsque, dans le travail que l'on met en place, c'est d'essayer de comprendre comment les clients arrivent à repérer les mineurs et surtout comment ils arrivent à se passer les informations entre eux avec des éléments bien spécifiques. Donc, Héloïse, elle vous en parlera un peu plus de ce qu'on avait pu repérer ou ce qu'on a pu entendre parler, tels que la part de pizza, etc., qui sont des éléments qui permettaient d'expliquer, de montrer que là, il y avait des mineurs et donc de la possibilité de prostitution de mineurs. Donc, tous ces éléments-là nous permettent, en fait, après, de construire et de mieux travailler nos interventions, donc auprès des jeunes, au temps d'accompagnement, et auprès des professionnels, sur le troisième volet que vous verrez après, qui est la formation et la sensibilité, et la conseil pour les professionnels. Donc, aussi, nous intervenons dans tout ce qui va être fêtes, événements, manifestations, afin de prévenir et sensibiliser les jeunes, parce qu'on voit aujourd'hui que, bah, avec l'hypersexualisation des jeunes, cette forme de liberté, d'empowerment, donc où ces jeunes femmes aujourd'hui ont cette possibilité de pouvoir exprimer dans des festivals, donc ça c'est ce que l'on peut voir régulièrement, des panneaux avec cherche mon sugar daddy ou avec les QR codes qui mènent directement sur leur site Insta qui basculent effectivement sur des sites où elles ont des propositions de prostitution clairement ou d'escorting. Donc c'est de pouvoir sensibiliser aussi sur ces événements-là parce que comme le disait madame auparavant, c'est que la prostitution ne touche pas que les milieux les plus vulnérables, les plus précaires, mais touche tous les milieux sociaux, bien évidemment. On en vient donc du coup à notre troisième mission qui est la formation et le conseil. Donc, on organise ce qu'on appelle nous des capacity building, c'est-à-dire qu'on a des formations un peu de base, mais on adapte systématiquement nos formations aux professionnels que l'on rencontre et aux besoins qu'ils rencontrent dans leurs établissements. Donc, on n'a pas de formule clé en main de formation, mais on a une formule de base qui sera toujours sous un fonctionnement d'une partie juridique avec Héloïse qui reprend les bases de des lois, etc., et d'une partie très éducative avec moi parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, on est obligé de travailler ensemble pour pouvoir mieux être confrontés et pouvoir mieux travailler l'accompagnement des jeunes dans la problématique d'exploitation sexuelle. Également, donc, à la suite des capacity building, les professionnels qui ont suivi les formations, on propose aux équipes d'être un peu un soutien conseil auprès des professionnels et des bénévoles qui peuvent nous solliciter lorsqu'ils sont face à des situations pour lesquelles ils ne savent pas trop comment agir ou interagir et comment travailler les situations et on peut intervenir en parallèle de notre mission d'accompagnement comme les perdus de vue au niveau du numérique. Et également, donc un dernier volet qui est l'organisation de webinaires. Comme on travaille principalement et quasiment uniquement sur du numérique, on organise donc des webinaires. On organise un gros webinaire en début d'année au mois de mars qui correspond un peu à notre séminaire. C'est un webinaire qui dure 3 heures avec plusieurs intervenants. Et tout au long de l'année, on organise 3 petits webinaires sous un format d'1 heure qu'on appelle des voix d'experts où un intervenant va venir parler d'un sujet beaucoup plus spécifique. Vous pouvez les retrouver pour certains donc sur notre page YouTube de l'association ALC où on a pu publier celui des polyaddictions et celui des problématiques liées aux familles. Donc, et pour information, donc on a un prochain webinaire qui va avoir lieu début décembre, donc le 3 décembre exactement, sur exploitation sexuelle et pop culture. Donc voilà un peu, en gros, ce que l'on peut proposer sur l'ensemble du dispositif en termes d'accompagnement, de sensibilisation, de prévention et de formation pour les professionnels. À savoir que effectivement, lorsqu'on parle d'accompagnement, on ne fait pas d'accompagnement physique, on ne fait que de l'accompagnement numérique des jeunes, toujours en lien avec les professionnels qui nous mandatent systématiquement et on organise des points de situation avec toutes les personnes pouvant participer à l'accompagnement des jeunes de façon générale. Donc, je vais laisser la main à Héloïse afin qu'elle vous explique un peu plus le volet numérique et en attendant, je vous laisse les informations concernant notre dispositif.
Merci beaucoup, vous m'entendez bien, j'espère. Alors, déjà, un grand merci de nous avoir invités. On aime beaucoup travailler et venir à l'ENPJJ. On est désolé de pas pouvoir d'avoir pu se déplacer, mais effectivement, c'était un tout petit peu loin pour nous. Mais on est ravis d'être parmi vous. Donc, moi, je vais me dresser un peu un portrait de ce que l'exploitation sexuelle des mineurs à l'ère du numérique. À Inside, nous avons une conception plus proche de celle des codes de l'Union européenne de l'exploitation sexuelle, c'est-à-dire que nous introduisons aussi dans la notion d'exploitation sexuelle, non seulement bien sûr la prostitution, mais aussi bien sûr le camming, les infractions numériques et tout ce qui peut se passer en ligne et qui permet de retirer à la fois de l'argent ou tout autre bénéfice. Voilà. Le numérique est aujourd'hui au cœur de la vie des jeunes. Il structure leurs relations, leur apprentissage, leurs loisirs, mais aussi parfois leur vulnérabilité. Ce que nous appelons le monde virtuel n'est pas un espace à part. Il est une extension pour nous de ce que nous observons de leur monde réel, avec ses risques, ses codes et ses violences. Mon propos d'aujourd'hui s'articulera donc autour de trois axes: comprendre le fonctionnement de l'environnement numérique dans lequel évoluent les jeunes, identifier les principales formes de violences sexuelles en ligne et réfléchir ensemble aux leviers de prévention et de protection que nous pouvons activer dans nos pratiques. Les jeunes comprennent l'environnement numérique. Les jeunes grandissent dans un univers où le numérique est omniprésent. D'après l'étude Born Social 2024 réalisée par l'agence Even avec Génération Numérique, 75% des moins de 13 ans utilisent déjà une application sociale de manière régulière. Pour rappel, normalement, les jeunes de moins de 13 ans ne sont pas censés avoir accès aux réseaux sociaux et cette étude prouve bien le contraire. Cette donnée est frappante. Elle signifie que la socialisation numérique commence dès l'enfance, souvent sans accompagnateur adulte structuré. Les enfants découvrent très tôt les réseaux sociaux, parfois même avant d'avoir la maturité nécessaire pour comprendre les enjeux de ce qu'ils y partagent. Ils développent ainsi leur première identité numérique, des profils, des photos, des vidéos, des commentaires, autant de traces qui les suivront longtemps. Les algorithmes et la captation d'attention. Les réseaux sociaux ne sont pas de simples outils de communication, ce sont des environnements programmés pour retenir l'attention. Derrière chaque fil d'actu se cache un algorithme, c'est-à-dire un système qui sélectionne les contenus les plus susceptibles de susciter une réaction, un like, un commentaire, un visionnage répété. Ainsi, TikTok, qui est quand même l'apanage de tous les jeunes que nous pouvons suivre, IRL ou virtuel, et il utilise une des plateformes les plus utilisées par les jeunes. Cette plateforme enregistre le moindre geste, les vidéos que l'on regarde, celles que l'on revoit, celles sur lesquelles on s'arrête ne serait-ce que quelques secondes. Résultat, le fil d'actu devient ultra personnalisé et plus on scrolle, plus on reste. Ce fonctionnement rend les applications hautement addictives, en particulier pour des adolescents encore en construction psychique et identitaire. Autre aspect essentiel, la confusion entre espace public et espace privé. Beaucoup de jeunes pensent que publier dans un groupe privé alors qu'en réalité les contenus peuvent être copiés, partagés, détournés ou enregistrés. Ce flou est à l'origine de nombreux drames, moqueries, harcèlement, diffusion d'images intimes. Sur Internet, rien n'est jamais vraiment effacé, mais même quand on croit supprimer un contenu. Or, on sait aussi que dans la prostitution des mineurs, bon nombre de jeunes rentrent aussi après du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement. Tout à fait en lien avec ces problématiques. Le droit à l'oubli. C'est pour répondre à cette problématique que le droit à l'oubli a été inscrit dans la loi. Il permet à un jeune devenu majeur de demander la suppression d'informations d'images le concernant, qu'il l'ait publié lui-même ou non. Mais dans les faits, ce droit reste difficile à faire appliquer. La viralité des contenus, les copies multiples et la circulation sur les serveurs étrangers rendent l'effacement complet quasi impossible. Ce constat nous rappelle que la meilleure protection reste la prévention. Apprendre très tôt aux jeunes à gérer leur image et leurs données personnelles en ligne. On a coutume de dire à Inside que les jeunes sont d'excellents entrepreneurs, mais qu'ils ne savent pas se sécuriser eux-mêmes. Identifier les violences sexuelles en ligne. Les violences numériques à caractère sexuel participant de l'exploitation sexuelle connaissent une explosion depuis quelques années. Elles prennent plusieurs formes, mais toutes reposent sur la même mécanique, la manipulation, la contrainte, la diffusion, la menace de diffusion d'images à caractère sexuel. Le cyberharcèlement sexuel. Le cyberharcèlement, c'est l'utilisation des outils numériques pour porter atteinte à une personne de manière répétée. Lorsqu'il est à caractère sexuel, il s'agit de messages, d'images ou de vidéos à connotation sexuelle envoyées dans un but d'humiliation ou d'intimidation. Ces faits sont constitutifs d'un délit qui peuvent être punis jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Pour information, le cyberharcèlement, une des voies numéro uno de l'entrée dans la prostitution très souvent, où on observe qu'il y a un premier harcèlement scolaire, puis qui débouche ensuite sur un cyberharcèlement. Toujours le lien entre le virtuel et l'IRL. Ces situations sont particulièrement destructrices, car elles poursuivent la victime partout, dans son téléphone, à toute heure et sans échappatoire possible. La sextorsion, autre voie d'entrée, autre phénomène, le mot vient de sexe et d'extorsion, il s'agit de menacer une personne de diffuser des contenus intimes pour lui extorquer de l'argent ou d'autres images ou des faveurs. Ce qui est frappant, c'est l'ampleur du phénomène. L'Office mineur a recensé près de 12 000 signalements en 2023, contre seulement une dizaine 3 ans plus tôt. Ces faits ne sont pas isolés, ils sont orchestrés par de véritables réseaux criminels, souvent situés à l'étranger. Les victimes sont souvent des garçons qu'on a trop tendance à oublier dans le cadre de l'exploitation sexuelle et qui pourtant représentent par exemple 15% de la prostitution des mineurs. Ils sont piégés par de faux profils et se font passer pour des adolescentes. Une fois les images obtenues, les agresseurs menacent de les envoyer à la famille ou aux amis et le jeune s'enferme dans la honte, la peur, allant parfois jusqu'au passage à l'acte. Ou à des commissions d'actes délictuels ou autres. C'est pourquoi il est essentiel d'en parler, de déculpabiliser les victimes et de rappeler que la responsabilité est toujours du côté de l'agresseur. Enfin, les deepfakes, en lien avec le revenge porn, la diffusion de photos ou de vidéos intimes sans consentement, touche également de nombreux mineurs. Ces pratiques sont punies jusqu'à 5 ans d'emprisonnement quand la victime est mineure. À cela s'ajoute aujourd'hui une nouvelle menace, les deepfakes pornographiques, qu'on retrouve systématiquement sur les sites d'exploitation sexuelle de mineurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une enfant réelle, hein, de 13 ans sur un corps, pour le coup, volé de femmes de 35 ans avec des formes, des seins, des fesses très prononcées, etc., etc. Manière d'attirer le client le plus facilement possible. Ne pas oublier que l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un commerce, et un commerce très lucratif pour les exploitants. Les contenus pédocriminels, bien sûr. Et enfin, comment prévenir et protéger? Face à ces réalités, notre rôle est d'outiller les jeunes, de renforcer leur esprit critique et de créer des espaces de dialogue sécurisés. Prévenir, c'est d'abord parler, parler de consentement, d'intimité, de respect, de notions de traces numériques, très important, puisque ça marche y compris pour les jeunes en situation de prostitution. Effacer des traces numériques d'une personne qui a été sur sex model n'est pas aussi simple que cela. Il faut bien sûr faire appel à Pharos ou à des associations comme Point de Contact, mais ça reste assez compliqué d'effacer toute trace. Donc on a des jeunes qui sont encore sortis, qui sont sortis plus ou moins de la prostitution, ou en tout cas qui ne sont plus actuellement qui ne se prostituent plus, mais qui pour autant gardent leur page active sur sex model, par exemple. C'est aussi accompagner, paramétrer l'ensemble de la confidentialité, repérer les signes de harcèlement, savoir à qui s'adresser. Donc nous, on répète systématiquement 119 et 3018 au moins 300 fois par atelier. Donc le 3018, qui est la plateforme nationale qui permet de signaler et de faire supprimer les contenus, qui est la plateforme en gros qui est liée à Pharos. Et travailler en réseau, toujours encore, systématiquement, entre les PJJ, les établissements scolaires, les familles, les associations et bien sûr toutes les plateformes. Pour assurer une réponse cohérente et rapide, ça c'est le vœu pieux d'Inside. Un jour, on y arrivera, on arrivera à faire changer TikTok, Snapchat et Instagram. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on est plein de résilience. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je reste bien sûr attentive à toutes vos questions et n'hésitez pas, voilà, je suis à votre disposition.